Allez. Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Très bonne soirée avec Totem et le club sang et or. Dans un instant, on va revenir sur le point du match nul qui a Paul Lignon contre Bordeaux. On va débriefer ce match avec Jean-Charles Virlogieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec un des acteurs de la rencontre de Rodez, le milieu de terrain, Wiliti Younoussa. Wiliti, bonsoir.
Bonsoir.
Avant de commencer ce club sans heure, personne n'a de petite faim, non?
Non.
Si.
Vous avez une petite faim?
Ouais, ouais.
L'une des infos de la journée, c'est la Ligue 1 Uber Eats qui devrait changer de nom d'ici la saison prochaine, devenir la Ligue 1 McDonald's. Je ne sais pas si vous avez vu cette info passer. C'est une véritable info, hein, comme quoi le naming de la Ligue 1 devrait changer. C'est pour ça que je me suis permis cette petite aparté.
On reste un peu dans les mêmes thématiques, hein.
Dans la nourriture, effectivement.
Ouais.
Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos flocons aujourd'hui, puisqu'il y a eu quelques neiges sur nos territoires. Est-ce que vous dites que vous êtes entraîné sous la neige cet après-midi?
Ouais, au début on a commencé sous la neige, mais après ça s'est arrêté.
Ouais.
La sensation de s'entraîner sous la neige, c'est quoi? C'est bien, c'est moins bien, ça change pas grand-chose?
Bah, ça va, mais la variation des temps, c'est brusque ici en fait. Des moments, il y a le soleil, d'un coup...
On ne sait plus comment s'habiller.
On ne sait plus.
Ouais, c'est ça, un véritable
c'est tombé
problème.
De rue à un moment. Hein.
Ouais, il y a eu des beaux flocons.
J'étais pas en short, mais déjà, je trouvais ça assez compliqué.
Bon, on va revenir sur cette rencontre face à Bordeaux. Fini notre point, Evelyne Delia. Avec ce score de 2 partout, 3 jours après ce match nul qu'on s'est finalement presque dans les derniers instants, vous gardez quel sentiment de la rencontre, Wiliti? Vous êtes un peu frustré encore au moment où on se parle, ou est-ce que c'est finalement la satisfaction d'avoir pris un point face à Bordeaux?
Non, je dirais pas de la satisfaction parce que on avait le match pendant tout le long. On avait la victoire, on avait les 3 points. Ben, au dernier moment, ils sont arrachés quand même. Ils ont pu revenir au score, je sais pas. Mais pour moi, je dirais qu'on a, j'ai un peu de la frustration, quoi.
Ouais, un peu de frustration. De la déception aussi, peut-être un peu. Déçu du résultat.
Oui, un peu.
Ouais.
Un peu déçu aussi du résultat.
Ouais. Mais c'est vrai que Rodez pensait avoir fait le plus dur en revenant dans le match. Hein. Rodez, une équipe qui sait réagir. Vous êtes la 3e équipe du championnat à avoir récolté le plus de points après avoir été menée. 12 points qui auraient pu effectivement se transformer en 14 samedi si Ignatenko avait eu 2 pieds gauches. On dit ça parce qu'il est droitier, hein, bien sûr. Ça s'est vu un petit peu hein, sur le but. Didier Santini, en tout cas, s'est voulu philosophe après le match. Bon, d'abord, pour lui, ce but de l'égalisation est magnifique, on peut le reconnaître. Pour qu'il y ait but, on dit souvent qu'il faut une erreur. Mais bon, sur certaines frappes ou certaines actions, l'équipe qui marque force aussi un peu son destin, ça peut arriver. Et pour le reste, bah, votre coach veut aussi souligner la bonne copie dans le contenu que vous avez rendu.
Ah oui, dans l'ensemble, Je pense qu'encore sur un match comme ça, on a grandi, on est resté calme même en perdant 1-0, on est arrivé à poser le jeu qu'on voulait mettre, à bien travailler sur le coup de pied arrêté qu'on avait travaillé. Il y a beaucoup de satisfaction après se dire voilà, que tu fais match nul, c'est aussi le football. Je pense qu'ils méritaient aussi, ils ont poussé, même si c'était un peu stérile. Mais voilà, après... Comme je l'aurais dit, vous pouvez être frustré, vous pouvez être déçu, mais il ne faut pas oublier le match que vous avez fait quand même, quoi. Dans nos temps faibles, où on arrive beaucoup mieux à gérer les situations, où tu sens que tu es plus calme, tu as une force derrière pour empêcher l'équipe adverse de vraiment s'approcher du but et tirer, ou beaucoup moins de situations adverses en ce moment.
Ouais, Didier Santini qui, sportivement, reconnaît que Bordeaux méritait. Est-ce que Bordeaux méritait tant que ça, d'ailleurs, d'égaliser, franchement?
Pour moi, franchement, l'égalisation, je pense, avec ce qu'ils ont fait ce week-end, je ne pense pas qu'ils méritaient l'égalisation. Je pense que nous, on méritait plus de gagner que l'égalisation à la fin, en fait.
Ouais. Bah, c'est vrai que le but est beau, mais les occasions précédentes, Bordeaux a poussé, mais vous les aviez quand même bien contenues. D'ailleurs, pendant longtemps, Didier Santini a regretté les erreurs de défense hein, de l'équipe. Et depuis quelques temps, bah, les clean sheets, une rigueur supérieure sont passées par là. Et samedi, bah, son plus gros regret à votre coach, c'était plutôt effectivement de ne pas avoir tué le match. Kylian Corredor, qui n'a pas toujours été tendre avec les erreurs défensives lorsqu'il y en avait. On se rappelle de ses coups de gueule contre les fameux CPA, mal défendus sur les CPA. Ben, il sait reconnaître aussi que cette fois, il y a eu du déchet quand même devant le but adverse.
Je pense que globalement, on fait un bon match. On a fait ce que le coach nous avait demandé et on était dans nos principes. Donc ça fait chier de... Désolé pour le vocabulaire, mais ça fait chier de prendre ce but à la dernière minute, vraiment, vraiment frustrant. Je pense qu'on a été solide, on a été solide. Après, sur ce genre de match, on sait comment ça se passe. Quand on a des transitions et des contrats à jouer, il faut les tuer. Le troisième but, il est trop important. À 2-1, on doit terminer le match et voilà, c'est comme ça. On n'a pas marqué le troisième, on n'a pas été efficace, on a mal joué les coups, je pense, devant. Et voilà, derrière, on se fait punir à la 94e et c'est comme ça.
Hein. Willy Tignoussa, qui est notre invité dans le club 100 heures, pour reprendre les termes de Kylian Corridor, ça fait chier?
Vraiment, ça fait chier. C'est comme il l'a dit, hein, en fait, ça fait chier et c'est décevant aussi. Parce que vu comment on a bien tenu défensivement, qu'on a gardé le score jusqu'à la fin, et j'ai égalisé sur ce ballon et tout, je pense vraiment ça fait chier.
Est-ce que le plus dommage finalement, c'est de ne pas avoir pris ces deux buts? Alors certes, c'est regrettable, mais c'est le fait de ne pas avoir marqué le troisième?
Pour moi, je pense que c'est d'avoir pris le deuxième but et le but d'égalisation. Parce que...
Il est évitable?
Peut-être, si on le voit avant, peut-être c'est un peu évitable et tout. Mais dire qu'on n'a pas marqué le troisième but et tout, là c'est un fait. Ouais. On n'a pas pu mettre le troisième pour tuer le match. Mais après, on ne doit pas prendre ce genre de but, surtout à ce genre de moment, en fait.
Voilà, c'est le moment, en plus, qui est embêtant dans les arrêts de jeu d'un match où on se dit que normalement, il faut être justement rude sur l'homme et dur dans les duels. C'est
exact,
ça?
C'est ça.
C'est vrai que quand on revoit l'action, alors il y a une glissade qui permet à Niatenko d'avoir un peu plus de latitude. Il aurait fallu peut-être avoir le réflexe de sortir sur lui derrière quand on voit qu'on a un coéquipier qui glisse, sortir tout de suite derrière. Mais voilà, on est à 20 secondes de la fin. Vous avez le public qui commence déjà à célébrer la victoire. Peut-être, vous pensez qu'il y a eu un tout petit relâchement, vous, dans l'équipe, en se disant « ça y est, c'est fini ». Vous pensez que ça a pu jouer, ça, un poil?
Pour moi, je pense, oui, il y a eu un petit peu de relâchement. Parce que du moment quand il y a eu un peu de relâchement, j'ai vu un peu dans le jeu des Bordelais et tout, je pense qu'ils ont commencé à y croire. Et ils les poussaient même dehors et tout, avec les entraîneurs, les autres remplaçants et tout, ils poussaient. Et je pense que ça leur a donné un peu de force. Puis, du coup, ils ont pu égaliser.
Ouais. Alors, si on revient sur le plan offensif, Rodez a davantage tiré que Bordeaux, 11 tirs contre 8. Le tout avec 35% de possession de balle seulement. Et ce n'est pas qu'une question de score, puisque finalement, Rodez n'a mené que la moitié du temps dans ce match. Il a couru après le score pendant un petit moment en première. En revanche, égalité parfaite sur les tirs cadrés. 3 chacun, 2 au fond pour les deux équipes. Ça fait quand même une belle efficacité. Et parmi les tirs non cadrés, mais qui sont quand même pas mal, y a votre superbe frappe en deuxième mi-temps qui passe vraiment pas loin au-dessus. C'est un geste que vous aimez vraiment tenter, quand même, ça
C'était osé. Je me suis dit, vu qu'il ne voulait pas sortir sur nous, sur le coup de pied arrêté, je me suis dit pourquoi pas l'essayer.
Oui.
Pourquoi pas mettre une bonne frappe et forte et peut-être ça va passer. Vu que j'avais aussi marqué ce genre face à Toulouse l'année passée.
Bien sûr, on s'en rappelle.
Et je me suis dit pourquoi pas maintenant.
On préfère se rappeler du but plutôt que du score final contre Toulouse, effectivement.
Mais il avait sauvé l'honneur. C'était le rayon de soleil de ce match au Stadium.
C'est
on s'en rappelle.
C'est vrai.
Avec ce superbe but.
Juste un point justement sur les frappes de loin. On le sait qu'en début de saison, Rodez ne tentait pas forcément ses frappes lointaines. Est-ce que ça a été une consigne? On a insisté à propos des joueurs qui peuvent frapper de loin sur ça?
Bon, pas forcément. On n'a pas beaucoup insisté sur ça, sur ce point. Mais...
C'est à l'instinct, quoi.
Sur moi, en fait, sur l'action des jeux, moi, c'est venu de moi, en fait. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer
C'est en fonction des situations. Une fois sur le terrain, on se rend compte que la situation peut amener une frappe, c'est ça?
Exact. En
fait. Ok.
Et c'est vrai que c'était bien de varier un peu les attaques, pour mieux surprendre l'adversaire. Rodez qui a bien géré son match, donc quasiment jusqu'au bout, au point que votre coach a tardé à faire des changements. On s'est interrogé d'ailleurs pendant la retransmission sur cette absence de changement. 79e minute avant le triple changement et la sortie des pistons plus celle de Andreas Utonji pour Tahirik Arconte en attaque. Et puis ensuite, en toute fin de match, vous avez passé la main à votre vieux copain Ahmad au milieu de terrain. Didier Santini s'en est expliqué sur ces changements tardifs et aussi sur l'absence de milieu de terrain sur le banc.
Je trouvais qu'on était bien. On était bien en place. Je ne pensais pas que Dembo irait si loin dans le match. Et je trouvais qu'on était bien. Des fois, il faut faire des changements pour faire autre chose. Mais des fois, là, je trouvais qu'on était bien en place, qu'on n'était pas mis en danger et que tout le monde répondait présent. Et après, on savait qu'avec les arrêts de jeu, ça allait faire 15 minutes et que ceux qui allaient rentrer allaient faire le job aussi. Ce qu'ils ont fait, ils ont fait une belle rentrée. On avait préparé tout le scénario. Il y avait Antoine 19e. Après, on a fait un choix. On avait préparé les scénarios, comment on pouvait changer de système, comment on pouvait changer de jeu. Hamad a pas mal joué à l'époque. Hamad à Dijon jouait milieu de terrain. Donc sa puissance, à l'époque, c'était Hamad et Willy au milieu, les deux. Donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Kylian peut redécrocher aussi dans un milieu à trois. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités de changements possibles.
Willy Younoussa qui est notre invité dans le club Saint Eor, Hamad Nguemsa au milieu de terrain. C'est vrai qu'au début, comme ça, ça peut choquer, mais vous avez eu donc l'habitude de jouer ensemble. Ça vous aurait rappelé des souvenirs de composer un milieu de terrain avec lui en fin de rencontre face à Bordeaux?
Oui, un peu. Ça m'a vraiment rappelé la fin de saison. C'était la fin de saison, je sais, 2021-2023 à Dijon. C'était exactement la même chose.
C'est vrai qu'avec Rodez, on l'a moins vu dans ce registre-là du milieu de terrain. Hamad Nguemsa, on l'a plus vu soit dépanner dans la défense à 3, soit piston, mais rarement au milieu de terrain.
Oui, mais avant cela, à Dijon, c'était Patrice Garand. Et il le faisait bien jouer au milieu. Il a même fini la saison en milieu de terrain. Il n'a plus rejoué latéral ou défense centrale.
Vous aimeriez l'avoir à vos côtés?
Pourquoi pas, moi, ça fait plaisir.
Bon, on est bien d'accord que c'est pas vous qui faites les choix, mais dans l'absolu, l'avoir à vos côtés, puisque c'est quelqu'un avec qui vous avez des affinités, forcément sur un terrain, peut-être qu'il y aurait de l'entente, il y aurait, comme on dit, on pourrait se trouver les yeux fermés. Ça pourrait se faire.
Ouais, je pense avant qu'on vienne là, à Dijon c'était beaucoup plus mieux. Ben maintenant après, il y a pas eu beaucoup trop ces connectivités, mais je pense aussi que c'est dû au fait qu'il est passé dans l'arc central et moi je suis plutôt au milieu.
Vous avez perdu un peu de repères?
Ouais, exact.
Okay.
Ouais, vous n'êtes pas forcément côte à côte, effectivement. Un milieu de terrain, en tout cas, quels que soient les joueurs, qui a bien géré temps fort et temps faible, comme le reste de l'équipe, hein, d'ailleurs, samedi. Et pourtant, il manquait le métronome Giovanni Hag, suspendu après avoir reçu son 154e carton jaune de la saison. Non, en fait, il n'en a reçu que 8. C'est le plus gros total de Rodez quand même, et le troisième plus gros total de toute la Ligue 2, derrière Kylian Kaiboué, 10 pour Amiens, et Kalidou Sidibé à Guingamp, 9 cartons. C'est aussi le joueur de Rodez qui commet le plus de fautes, mais ça ne fait pas pour autant de Giovanni le nouveau Raymond Domenech, Carlos Moser ou Cyril Roll. J'essaye de trouver des références de
à
tous les
le monde,
âges,
sûr, ouais.
Si vous voulez. Puisqu'il n'est malgré tout ça que le 12e joueur à avoir commis le plus de fautes dans l'ensemble de la Ligue 2. Le deuxième Ruthénois, tiens, à avoir commis le plus de fautes cette saison. Vous savez qui c'est?
Le deuxième Ruthénois à avoir commis plus de fautes.
Donc le premier, on cherche le premier.
Le premier, c'est Giovanni.
Ah, ok.
Et le deuxième?
Je dirais Hamad.
Eh non, c'est vous. C'est vous, avec une trentaine de fautes. Mais vous êtes un petit malin, vous, parce que vous êtes bien moins souvent averti. Vous passez entre les gouttes, vous avez 3 cartons depuis le début de la saison en championnat. Et alors, pour ce qui est de Giovanni, il faut souligner qu'il n'a pris aucun carton rouge cette saison également, d'où sa 12e place au palmarès de la discipline. Ça n'est pas un méchant. Et il a beaucoup progressé en la matière. Parce qu'on sait, on connaît son historique.
Notamment avec Annecy, exactement, où il avait reçu 5 ou 4 cartons rouges.
4 ouais. cartons. Ouais. Avec
en
Nancy.
5 matchs, c'est ouais, ça. Okay. Ouais.
En tout cas, revenons à nos moutons et à la conséquence de cette suspension. Eh ben, Lorenzo Rajo était sentinelle et il a parfaitement réussi son intérim samedi, ce dont se réjouit évidemment votre coach.
Il le faisait à Clermont. Et il le fait très bien à l'entraînement et je pense qu'il a cette capacité technique de pouvoir jouer, de pas être sous pression, d'avoir une pression vraiment, comme dans tout ce qu'il fait à l'entraînement, dans les jeux, dans les conserves. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans le cœur du jeu et qui est pas en pression et qui est capable d'aller chercher des ballons, de sortir les ballons proprement et d'aider sa défense. Donc c'était bien.
Ouais, sur les conserves, alors c'est pas les boîtes de conserve, hein, c'est les conservations de balles. Hein, je précise.
Merci pour cette petite précision. On va vous appeler Maïté avec cette petite référence aux boîtes de conserve.
Il y a quand même un jargon à connaître, les CPA, les conserves.
Hein. Oui, après, conservation, c'est juste un diminutif. Il aurait pu utiliser le mot en entier et tout le monde aurait compris, mais c'est vrai qu'il y a quelques mots. On fera un lexique un jour dans le Club 100 heures, lexique du footballeur. Bon, il n'y a pas que lui qui a retrouvé la forme, Lorenzo Rajo. Il y a également vous, Willity. On sent que vous avez franchi un petit cap, notamment ces dernières semaines et le match à Valenciennes. On parlait justement de cette rencontre avec votre coach. Écoutez ce qu'il en a dit.
Willy, je crois qu'il est dans les 6-7 joueurs qui ont joué le plus de matchs. À un moment, il fallait faire tourner. Lui aussi, à un moment, était fatigué. Moi, je pense avoir 4-5 super milieux de terrain. Il faut faire des choix. Voilà, Will, il a les qualités de ses défauts. Mais par contre, la plus grande qualité qu'il a, c'est qu'il n'a jamais rien, qu'il a toujours le sourire et qu'il va toujours de l'avant. Il pourrait marquer des buts et faire plus de passes dés et moins se précipiter, mais il est tellement exceptionnel que des fois, il veut trop se précipiter. Mais il a beaucoup réglé ça ces derniers temps, donc c'est super. Et c'est important, hein. Chacun individuellement, de travailler individuellement avec chacun sur leurs défauts, comment travailler, comment arriver à sortir le meilleur d'eux-mêmes pour que ça soit après bénéfique pour le groupe. Quoi.
Des compliments, ça fait plaisir ?
Ça en fait plaisir.
Alors, on enchaîne avec un rendez-vous. Évidemment, oui, dans un instant. Enchaîne avec un rendez-vous dans un instant que vous connaissez bien. Oui, j'ai senti que vous vouliez me freiner un petit peu dans cette action, Jean-Charles. Le rendez-vous de la question à la con, ça arrive, vous n'y échapperez pas.
Ouais. C'est vrai que pour rebondir sur ce que vient de dire votre coach, on a le sentiment que vous êtes toujours ce joueur généreux qui ne lâche pas son adversaire. Peut-être d'ailleurs que si vous aviez été encore sur le terrain, Ignatenko n'aurait pas marqué, parce que vous auriez été juché sur ses épaules. Mais vous aussi, à l'instar de l'équipe en général, vous avez hissé le niveau d'un cran en étant moins précipité sur les phases offensives, notamment. Vous l'avez travaillé avec le coach, c'est ce qu'il dit. Il essaye de travailler certains points individuellement avec le joueur. Vous en avez discuté avec lui ?
Oui, on a discuté avec. J'ai discuté avec lui de ça. Et j'ai discuté avec lui de ça à plusieurs reprises, je pense 2 ou 3 fois. Et il m'a beaucoup plus expliqué des trucs et tout. Il m'a même demandé d'être à un certain moment. Il faut pas toujours être généreuse et tout. Chercher toujours à donner au premier qui demande ou quoi que ce soit. Ok, on a beaucoup discuté de ça.
Attendre la meilleure solution, pas forcément la première.
Oui.
Ça veut dire quoi ça ? Relever la tête et temporiser, c'est-à-dire j'attends, je prends les informations. C'est ça ? Comment on peut le travailler en fait ?
C'est à l'entraînement, en fait. À l'entraînement, qu'est-ce qu'il me demande de faire ? Il me demande de ne pas se précipiter. Mmh. Et quand je suis dans les 30-20 derniers mètres, il faut que je ne lâche pas aussi tôt ma balle. J'avance. Quand il y a de l'espace, j'avance. Et je fixe d'abord un joueur avant de donner la passe. Il ne faut pas que je me précipite comme ça et... Quand je me précipite des fois, je n'élimine aucun défenseur et c'est pas important les passes. Et je peux aussi aller marquer, ce qu'il me dit souvent. Il me dit je peux aussi aller marquer, pas forcément donner tout le temps et tout ça. Bon, après, moi la générosité ou la gentillesse, c'est ma qualité première, je pense.
Ouais, et puis ça, c'est pour se débarrasser de ce réflexe de donner le ballon, il faut certainement du temps, il faut le travailler à l'entraînement.
C'est un peu ce qu'il m'a dit en fait.
Il faut devenir plus égoïste.
Un peu quoi, pas trop, mais un peu, des fois.
C'est contre nature chez vous, du coup, comment on le travaille ? Ça doit être dur de prendre un peu sur soi.
Exactement, c'est dur. Moi, ça fait, je sais pas, ça fait un mois, je pense, ou plus même, que j'essaye de...
De penser qu'à moi.
De penser qu'à moi et...
Ouais, ouais.
C'est souvent dur.
Et on voit évidemment des effets sur le terrain, on vient d'en parler, évidemment, et c'est tant mieux pour vous. On voit qu'avec Didier Santini, on a des fois à peu près les mêmes analyses, Jean-Charles, lors de leur retransmission, donc ça nous fait plaisir. Le rendez-vous de la question à la con, c'est un rendez-vous phare, un rendez-vous apprécié par Jean-Charles.
Je n'ai pas dit que tu étais un con, hein. J'ai dit que globalement, la question, elle est con.
Et le voici, évidemment, vous n'y échapperez pas, Willity.
On continue de décortiquer votre jeu, parce qu'on parlait de votre frappe de loin tout à l'heure, et puis de votre nouvelle... temporisation, on va dire, de votre nouvelle maîtrise. Mais votre marque de fabrique, est-ce que ça ne serait pas en train de devenir la chute conduite de balle ? Vous voyez de quoi je veux parler, non ?
Non.
On a été impressionné par votre capacité à tomber dans un duel et à reprendre quand même le cours de votre course et à récupérer le ballon. Mais comment vous faites ?
Je ne sais pas, c'est aussi l'instinct. C'est l'instinct, j'ai glissé. Il n'y a eu pas faute, il n'y a rien. Il ne fallait pas que je reste quand même au sol et attendre qu'on contre-attaque ou qu'on part nous marquer des buts. Du coup, je me suis dit, relève-toi tout de suite. J'ai cru qu'il y avait l'adversaire, mais à ma grande surprise, je me trouve qu'il n'y avait pas encore d'adversaire. Et du coup, je récupère encore la balle.
Si ça se trouve, c'est une bonne feinte, parce que lui, il vous pense au sol, il se dit, j'ai le temps, et sauf que vous, vous êtes debout en une seconde. C'est incroyable, parce qu'il faut quand même savoir se situer. C'est la frustration d'être tombé, vous vous dites, je continue, moi.
En fait, comment je veux dire, c'est comme un peu ce que le coach il a dit, moi, je suis quelqu'un qui ne lâche pas.
Ah, ça, on a vu.
Importe la difficulté. Moi, je... C'est pas, même si là où il y a l'impossible, moi je vois toujours que c'est possible en fait. Mmh. Donc je me dis jamais impossible.
Une belle phrase ça. Donc, ouais.
C'est comme ça en fait, je suis. Et à l'instant, quand j'étais tombé, je me suis retourné, je vis qu'il y avait encore la balle sur les côtés. Je me suis dit, tant mieux.
Ouais. Et après, vous nous l'avez fait plusieurs fois.
Le centre de gravité de Willy Tinoussa,
ça doit aider.
Et un peu plus bas que la moyenne aussi. Ouais. Non pas que je cherche à trouver des excuses et des critiques, mais vous faites partie des milieux de terrain un peu petits. Donc forcément, des fois, pour se relever, on peut aller un poil plus vite que la moyenne des gens qui sont un peu plus grands. Quoi.
C'est exact aussi.
Ça peut jouer aussi.
Centre de gravité qui...
Vous devez vous relever plus vite que Serge Philippe, par exemple.
Oui, qui n'est pas forcément le même gabarit, effectivement. Même si sur les duels aériens, des fois, on voit Willy T gagner des duels aériens au milieu de terrain sur des adversaires beaucoup plus grands.
C'est vrai qu'on s'est dit, du coup, quand il tombe, Willy T, c'est bon signe. il va gagner son duel.
Un mot sur la fin de match, Willy T, et l'ambiance générale, en dehors de la célébration du deuxième but de Bordeaux, qu'on va qualifier de... Allez. Maladroite devant le COP de Rodez. Est-ce que ça s'est bien passé entre les deux équipes? Il n'y a pas eu d'échauffourée?
Oui, ça va. Ça s'est bien passé. On s'est salué et tout. Il n'y a pas eu de tension. C'était juste au moment de la fin. Il y avait juste une petite tension, mais après, ça va. Ça s'est bien passé. On s'était vite réconcilié.
On s'est tapé sur la main. On est sentis bons amis.
Moins de tension qu'au match aller, notamment. On sentait que c'était encore un peu...
Exact. Il y avait moins de tension là qu'au match aller.
Bon, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, on va dire, entre les deux clubs, et c'est pas plus mal.
Effectivement, vous avez raison de le préciser. Willy Tinoussa, qui est notre invité dans le club Saint-Léor, c'est la fin de cette première partie. La deuxième partie, on va la retrouver en podcast sur notre site radiototem.fr, et on va s'intéresser, Willy T, dans la prochaine partie, à votre futur adversaire, Amiens. On va s'intéresser à cet adversaire-là qui a réalisé une passe de 3, non pas de 3 victoires, mais de 3 matchs nuls d'affilée. Justement, la série se poursuivra peut-être Amiens ce week-end. On aura l'occasion d'en parler dans la deuxième partie du Club Sang et Or.
Totem, le Club Sang et Or. Totem, le Club Sang et Or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogeux.
Deuxième partie du Club Sang et Or avec notre invité, Willy Tinoussa, toujours Jean-Charles Virlogeux qui est avec nous, qui va jouer dans un instant le médecin de service. Puisque vous allez nous donner quelques infos par rapport à l'effectif de Rodez. Par rapport à ce week-end, le prochain adversaire, c'est Amiens. Amiens qui vient donc de réaliser une fameuse passe de 3 matchs nuls contre Bordeaux, Ajaccio et Laval le week-end dernier. Opposé à des Tangos qui ont pris de l'avance au score sur une réalisation en première mi-temps de Junior Cadillé. Mais même dominé, Amiens a fini par égaliser sur un corner frappé par Sébastien Corchat et repris de la tête par Franck Boya. On n'était pas très loin du scénario de Bordeaux contre Rodez, puisque c'était la 86e minute de jeu. Pour la première fois depuis le 25 novembre, Amiens a réussi à ne pas perdre après avoir concédé l'ouverture du score. C'est une stat qui est bien différente de celle de Rodez. On en a parlé en première partie du Club Saint-Héor. Les coups de pied arrêtés, pourtant, c'est pas la spécialité des Picards cette saison. Seulement 5 buts, comme Rodez. Mais Amiens a une bien moins bonne attaque avec seulement 22 buts marqués. 19e attaque de ce championnat de Ligue 2. Rodez est deuxième de ce classement avec 43 buts. Revenons à nos licornes. Amiens, dont Christophe Duprez n'était pas vraiment satisfait après le match nul donc face à Laval. Samedi, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 2, dans le viseur du vice-président, le manque de personnalité et du poids offensif de son équipe. On a déjà parlé donc de l'aspect offensif, on va parler maintenant de la personnalité des joueurs d'Amiens, car il y a des joueurs trop gentils, selon lui et son staff. 51 cartons jaunes, 1 rouge, c'est donc presque 2 cartons par match, et pourtant, 58% de duels gagnés par rencontre, en moyenne, donc le souci, forcément, il vient pas d'ici. Trop gentil, c'est par peur, la peur de jouer, la peur au ventre, disait Christophe Duprez dans une récente interview accordée au site Le 11. Une équipe un peu trop scolaire, dans la peur de mal faire. Bon, l'objectif est un peu loin, l'objectif du top 5, puisqu'ils sont 9e, Amiens, un point derrière Rodez au moment où on se parle, alors que Rodez a seulement l'objectif du maintien. Ou alors, on nous a peut-être pas tout dit, Willity, je sais pas si l'objectif a évolué en cours de saison.
je pense, oui, l'objectif a évolué aujourd'hui, avec ce qu'on fait et tout, bah, pourquoi pas croire à la...
Top 10, ouais, la Ligue 1, c'est peut-être un peu présomptueux, mais donc c'était le maintien en début de saison. Là, on fait partie du top 10. Top 10, c'est réalisable ?
Ouais.
Top 5 ?
Pour moi, c'est réalisable. Je pense même top 5, c'est réalisable.
Parfait. L'objectif qui a donc évolué au fil de la saison. On en parle avec Willity Younoussa dans le club Saint-Héor. Amiens qui reste donc sur une série de 5 matchs sans victoire, mais il y a 4 nuls dans cette série. Amiens qui ne jouera pas non plus sa place en Ligue 2, car il y a 7 points d'avance sur Dunkerque, 17e. À moins que, évidemment, un grand tremblement de terre. Mais normalement, ces équipes-là ne seront pas concernées par le maintien. Une équipe qui, du coup, se présente comment, selon vous, cette équipe de Amiens, Willity ? Normalement, c'est presque pas 3 points assurés, mais au moins 1, on va dire, sur cette 28e journée.
Je sais pas. Après, le match, ça se joue après...
Sur le terrain.
Sur le terrain,
ça, on est bien d'accord.
On va se dire des trucs et tout, mais... Le match, ça s'est joué sur le terrain. Il n'y a pas un petit adversaire. Et je pense, face à Amiens, ça va vraiment être un match costaud. Mmh. En plus, c'est chez eux. Ils ne vont pas nous donner du chocolat, rien. Je pense qu'ils vont aussi vouloir les 3 points. Mmh. Donc, du coup, ça va jouer. Ça va vraiment être un match coriace comme ce week-end, quoi.
On rappelle que dans les caractéristiques de cette équipe d'Amiens, il y a un certain Andy Carroll, grand joueur passé notamment par la Première Ligue, qui avait fait du mal à Rodez au match aller puisqu'il avait ouvert le score. Derrière, c'est Kylian Corredor qui avait inscrit son doublé et le score final avait été de 2-2. Andy Carroll, c'est vrai que quand on voit le palmarès de ce joueur, ou en tout cas l'expérience de ce joueur, bah, ça laisse un peu rêveur quand même de jouer contre des joueurs comme ça qui ont connu des équipes internationales, notamment avec l'équipe d'Angleterre.
Et bien sûr, ça... Ça laisse un peu rêver. En plus, il a fait l'un des plus grands championnats du monde, la Premier League, pour moi. Donc, pour moi, c'est un très bon joueur. Et il faut vraiment se méfier.
Puissant, en tout cas, c'est vrai que c'est ce qui nous avait marqué lors de la rencontre au match aller. À Paul Lignon, c'était en décembre dernier. Bah, de la puissance, il en faudra, mais est-ce qu'on compte sur tout le monde, Jean-Charles, du côté de l'effectif de Didier Santini ?
Bah, écoutez, Joris Chougrani, en tout cas, en défense, pourrait faire son retour dans le groupe, c'est ce qui était programmé. Il a joué d'ailleurs avec la réserve ce week-end, mais il s'est refait mal et du coup, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Donc, incertitude quand même. On espère pas de rechute quand même pour Joris, qui était déjà absent depuis plusieurs semaines. Joris Chougrani, donc peut-être de retour dans le groupe, tout comme pourrait l'être à son tour Eric Van Den Abel, le défenseur gravement blessé au début de la saison, qui a repris l'entraînement collectif intégral cette semaine. C'est un grand cap de franchi pour l'ex-joueur de Valenciennes. Mais attention, de là à le voir rejouer en Ligue 2, en match, en compétition, Didier Santini prévient, il va falloir être patient.
Après 7 mois, 8 mois, s'il est dans le groupe la semaine prochaine, c'est que j'ai perdu beaucoup de joueurs. Non, il faut qu'il aille. Joris a demandé à jouer 45 minutes, 55 minutes avec la réserve. Je pense qu'Eric faudra, selon son ressenti, essayer de jouer en réserve. Mais je pense qu'entre être jock et devenir joueur à part entière, ce qui va être exceptionnel, on est très content, et rejouer un match, je pense qu'il faudra attendre un mois ou deux, quoi. Ça va être la première fois qu'il va faire... des séquences complètes d'entraînement tu vois, avec nous. Donc imagine-toi, même s'il fait 4 fois, allez, 5 fois, 6 minutes mercredi, tu le mets 80 minutes, tu le fais rentrer, le rythme du match, quand tu reviens de blessure, c'est pas... Tu as fait des, ils ont couru, ils ont fait des 30-30, il a fait du travail athlétique. Après, c'est le rythme sur le terrain. Tu es vite oxy très très vite, quoi. Mais c'est important qu'il soit là. Il s'est blessé gravement la première journée, et qu'il soit là et que les mecs le voient et que voilà, ça pousse aussi. Il est là, c'est un compétiteur, c'est un Vidic, et donc il lâche rien et ils savent tous derrière qu'il va tout faire pour revenir très très vite et leur prendre leur place. Donc c'est ce qui est intéressant, quoi.
Vidic, référence au
joueur passé par Manchester United, bien
voilà.
Sûr.
Sacré d'ailleurs, il y a quelques années, meilleur défenseur central de tous les temps. en première ligue et qui s'était
lui aussi... Je pense qu'il y a quelques années, c'était une bonne dizaine d'années d'ailleurs.
2019, je crois.
19
Ouais, il y a eu un palmarès des joueurs par poste et Vidic avait été sacré meilleur défenseur central de tous les temps. Je ne sais pas si un autre palmarès est sorti depuis. C'est possible.
Ça serait beau, hein, parce que j'étais passé à côté, mais bon, après, c'était un très grand défenseur, hein, je ne remets pas ça. Mais...
Et qui s'était gravement blessé lui aussi plusieurs fois hein, au genou et qui était revenu à chaque fois, même s'il a fini par lâcher l'affaire à force d'être trop souvent blessé.
Vous avez les bonnes infos, Jean-Charles Vienjeu. Journaliste de renom, meilleur défenseur central de l'histoire de la Première Ligue, effectivement.
Incroyable, hein, sacré statut, effectivement. Ouais. Bon, Eric, lui, du coup, notre Vidic à nous, c'est vrai qu'il y a un petit air en plus, hein, un petit peu entre les deux. Il était content à l'entraînement aujourd'hui de revenir pleinement.
Oui, il était trop content, comme tout un joueur en fait. Il était content de revenir dans le groupe et de s'entraîner avec nous, et de ne pas s'entraîner juste à moitié, de faire toute la séance complète avec le groupe. Là, il était vraiment content, je trouve.
Ouais, on espère effectivement le voir revenir rapidement à la compétition, mais il ne faut pas brûler les étapes, bien sûr.
On parlait évidemment de Joris Chougrani et donc de possiblement Eric Van Den Abel qui pourrait intégrer de temps en temps la réserve de Rodez. On les salue et on précise juste que la réserve de Rodez évolue en Régional 1 et que pour l'instant ils sont premiers de leur poule et ils potentiellement pourraient jouer l'accession en N3. C'est tout le mal que l'on peut leur souhaiter, évidemment, aux hommes de Florent Reich. Voilà pour la petite info. Ouliti, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite de passer, évidemment, une très très bonne semaine d'entraînement. Et normalement, on se retrouve samedi sur les pelouses. Normalement, hein, on est d'accord. Sur la pelouse de Amiens. Passez une très très belle semaine et donc à samedi pour l'intégrale sans et or.
Totem, le club sans et or.